Vivre FM podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Amoureux de la chanson, on n'a qu'à bien se tenir parce que c'est une grande chanteuse que vous allez recevoir dans un instant.
Et je l'invite, il faut le dire, spécialement pour vous. J'ai l'honneur de recevoir Jacqueline Boyer,
hein,
que vous connaissez bien.
Ah bah oui.
Elle vient nous présenter son dernier livre, livre dans lequel elle rend hommage à ses parents, mais aussi à Edith Piaf, qui était sa belle-mère. Et elle a choisi Vivre FM pour revenir sur son parcours de vie. Un parcours de vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle revient notamment sur cet accident de voiture qui a fait basculer son destin. C'était en 1966. Une émission qui s'annonce forte en émotions.
Mais il y a eu des joies aussi, puisqu'elle a gagné le prix de l'Eurovision, elle vous expliquera ça, elle va vous expliquer ça dans un instant sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Jacqueline Boyer, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Vivre FM, je suis heureux de vous recevoir. Nous sommes ensemble pendant une heure. On va revenir sur votre carrière extraordinaire et puis sur ce livre que vous venez nous présenter. Histoire de trois vies extraordinaires, c'est publié aux éditions Lean X21. Un livre dans lequel vous rendez hommage à trois personnages qui ont marqué votre vie et qui ont marqué la vie de beaucoup de Français. Lucienne Boyer, votre maman, Jacques Pils, votre papa, et puis Edith Piaf qui était votre belle-mère, la deuxième femme de votre papa. Racontez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée de créer ce livre. Pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre ? Tout simplement, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en 2009-2010, la mairie de Paris avait demandé à mes amis, les amis d'Edith Piaf, dont je suis la présidente, à Bernard Marchois, qui en est le secrétaire général, de faire un petit discours, une histoire sur Edith, Jacques et Lucienne, faire une petite conférence. Et donc, je me suis attelée à ça. On m'a dit, tu fais à peu près une petite heure. Donc, j'ai commencé à écrire et j'ai raconté un petit peu leur vie, comment ils ont démarré, enfin, quelques anecdotes et tout ça. Et on l'a fait dans un petit théâtre. Et les gens qui étaient dans la salle, il y avait à peu près 300-400 personnes, ont été tellement emballés. Il y avait mes producteurs suisses qui étaient là. Ils ont été tellement emballés par ce que je leur racontais que quand j'ai terminé, les gens m'ont dit, faut pas en rester là, maintenant il faut l'écrire. Et mes deux producteurs, Marc Lynn et Marc Udiger, avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années, m'ont dit, maintenant, Jacqueline, il faut que tu écrives le livre. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
Ces trois personnages qui ont marqué les Français, ces trois personnages qui ont eu une carrière formidable, mais à la fois un parcours hors du commun, semé d'embûches, avec de nombreux rebondissements dignes de
plein d'aventures.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, vous qui les avez bien connus, quel est le point commun entre ces trois artistes ?
La chanson d'abord, la scène, la musique, les textes, voilà, le public. Et puis surtout la scène, parce que c'était des bêtes de scène tous les trois, voilà.
Et ce qui est formidable, c'est de voir que les Français les ont jamais oubliés tant d'années après.
On parle beaucoup d'Edith, mais on parle beaucoup moins de Lucienne, de Boyer et de Jacques Pils. Alors comme j'ai ma fille et mes petits-enfants, j'ai dit, il faut quand même que je remonte un petit peu, leur raconte l'histoire de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents plutôt. Donc je remets en mémoire un petit peu le parcours de Lucienne, parce que Lucienne a ouvert la voie à Edith Piaf, qui à l'époque était tout à fait inconnue. C'est elle qui a ouvert la voie à toutes les chanteuses françaises qui ont fait carrière en Amérique, comme Patachou, comme Jacqueline François, comme Yvette Giraud, tout ça. Et maman a été une des premières à ouvrir la voie aux chanteuses françaises.
Donc c'est pour lui rendre hommage aussi.
Voilà.
Et c'est une sorte aussi de livre familial, comme une sorte de devoir de mémoire pour les héritiers.
Bien sûr, pour qu'ils sachent quand même, parce qu'ils ont quand même un parcours extraordinaire. Ils font partie tout de même, leurs chansons, c'est quand même des chansons qui font partie du patrimoine de la chanson française, et ça marque toute une époque. Et je parle d'eux, de leur naissance jusqu'en 1960, parce que dans le livre, je ne veux pas les faire mourir, je les laisse dans la pleine possession de leur voix, moyens, de leur talent, de leur voix et de leur beauté. Et je laisse la porte ouverte puisque et je termine le livre en 60, puisque moi, à ce moment-là, je gagne l'Eurovision pour la France. Et je dis, ça, c'est une autre histoire.
C'est ça, c'est votre histoire à vous. Voilà. Et on y reviendra tout au long de cette émission. L'Eurovision, ça a été extrêmement important dans votre carrière.
Oui, oui.
Alors, je tenais à dire, ce livre, il est magnifique parce que, évidemment, il y a beaucoup d'écrits. Vous racontez beaucoup d'anecdotes.
Oui, il y a des choses amusantes quand même.
Sur beaucoup d'anecdotes et d'aventures. Mais il y a des photos et des documents inédits qui sont magnifiques. Des photos peut-être que le public n'a jamais vu.
Non, absolument pas. J'ai voulu justement, parce qu'on a tellement mis de photos d'Edith, de Lucienne, etc., de Jacques Pils, j'ai sorti, moi, de mes cartons des inédits, et qui sont des photos magnifiques qui datent de l'époque, des années 30, 40, pendant la guerre, après la guerre. Et donc, il y a des photos superbes. Et j'imagine. Tout ça est en noir et blanc et en papier glacé, s'il vous plaît.
C'est vrai. Voilà. Il est magnifique, ce livre. Ça fait
et
un
la couverture,
très beau cadeau.
Quand on enlève la jaquette du livre, quand on enlève la jaquette, on voit la couleur de la robe de ma mère qui est bleue, puisqu'on l'appelait la dame en bleu. Elle s'habillait toujours en bleu.
J'imagine que émotionnellement, ça a dû être quelque chose de fort de confectionner cet ouvrage.
Moi, j'ai mis 3 ans à l'écrire, d'abord parce qu'il a fallu que je recherche, fasse des recherches dans les différentes biographies. Et puis, il a fallu que je fasse des recherches dans les anecdotes, dans les aventures qu'ils ont vécues tous les trois, et comment ils se sont rencontrés, comment leurs vies se sont mêlées. Parce que avant que Jacques se marie avec Edith, il était donc le marié avec Lucienne. Et quand Edith a connu Lucienne, elle n'était pas encore, elle était à peine la môme Piaf. Et donc, elles ont commencé une amitié à ce moment-là. C'était dans les années 30 et quelques. Voilà.
Voilà, on va revenir sur le destin de ces trois personnages et comment ils se sont rencontrés. Revenons d'abord sur la vie et la carrière de votre maman, Lucienne Boyer. Comment est-elle devenue chanteuse déjà à l'époque ?
Oh, tout simplement.
C'était une passion, en rêve
d'enfant ? Oui. Elle voulait absolument faire du théâtre. Elle voulait d'abord faire du théâtre. Donc, je pars de sa naissance en 1901. Donc, il y a toute la période de la guerre de 14-18, où une partie de sa famille, tous les hommes de la famille sont morts dans les tranchées. Et donc, ma grand-mère, qui était couturière, a dû abandonner son atelier de couture et elle a été engagée à la Thomson & Stone, qui était une usine, pour tourner des obus pour la guerre. Et ma mère, ne voulant pas la laisser toute seule puisqu'elle était veuve, a été aussi engagée à la Thomson & Stone. Elle avait 12 ans, hein. Donc, elle tournait les obus, elle avait les bras dans le pétrole et tout. Et un jour, elle est tombée malade. Et donc, elle a arrêté de travailler à l'usine. Et le docteur est venu la soigner. Et il lui a dit, ma petite fille, il faut que tu te soignes, il faut que tu arrêtes de faire ça. Alors, il faut que tu sois sage, il faut que tu restes tranquille. Et alors, elle répond au docteur et à ma grand-mère, à sa mère. Elle dit, oui, à une condition, je vais être artiste. Elle dit pas artiste, elle dit artiste. Et ma grand-mère, Harry, elle a pensé que c'était une petite farce, une petite anecdote qu'elle faisait. Mais non, elle a poursuivi, elle a continué, elle voulait absolument. Donc,
dans la famille, personne n'était artiste.
Non. Mon grand-père avait un atelier de plomberie, était plombier. Ma grand-mère était couturière. Donc, c'était des petits bourgeois, enfin des petits ouvriers, quoi. Et donc, maman, mais elle aimait bien chanter. Mais elle chantait, elle zozotait, donc elle avait un défaut sur la langue. Et elle avait un petit filet de voix, mais elle aimait. À l'époque, tout le monde chantait, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de radio à l'époque, hein, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de tout ça. Et donc, la famille se retrouvait tous les dimanches, dans les guinguettes, au bord de la Seine, pour chanter. Ils étaient nombreux, ils chantaient, et tout le monde chantait. Mon grand-père avait une voix de baryton, ma grand-mère était une petite soprano légère, donc elle a vécu dans la musique.
Et qu'est-ce qui a fait basculer son destin avec le succès? On connaît tous par les mois d'amour, justement, on l'écoutera tout à l'heure.
Ce qui a fait basculer son destin, c'est un jour, elle passe une audition, elle est engagée dans un théâtre pour chanter une chanson. Et elle demande à ma grand-mère de lui faire une robe, parce que à l'époque c'était les chanteuses réalistes, et elle voulait une belle robe noire. Et ma grand-mère lui dit, non, tu es trop jeune. tu es trop jeune pour être habillée en noir, je vais te faire une petite tenue d'artisan, une petite tenue d'ouvrier, donc une petite tenue de bleu, tu seras en bleu. Je vais te faire, voilà. Alors, c'est comme ça qu'elle a commencé avec sa robe bleue. Et donc, elle a commencé à chanter, et après, elle a fait du succès. Deuxième chanson, il n'y a pas de micro non plus, là. Hein. Et puis après, elle a été engagée dans des revues, avec au Théâtre Michel, Parisis l'a fait engager, donc elle faisait des figurations. Alors elle aimait beaucoup ça, donc elle jouait, elle interprétait tas de choses. Elle était figurante. Et puis après, pour payer ses cours de chant, alors elle a posé pour les peintres. Donc elle était avec Kiki, la fameuse Kiki de Montparnasse. Elle a posé pour le peintre Jean-Gabriel Domergue. Et alors, le plus fameux, son premier grand tableau de Jean-Gabriel Domergue, c'est la femme en robe jonquille, et c'est maman qui est dessus. Et ce fameux tableau a été acheté par un Américain, et maman est maintenant aux États-Unis avec le tableau.
D'accord, c'est une belle histoire.
C'est comme ça que ça a commencé, si vous voulez.
Et puis son succès après, Parlez-moi d'amour.
Alors après, elle a connu Fischer, elle a connu un monsieur qui avait un cabaret, et puis elle a connu un producteur américain qui l'a engagé pour Night in Paris à Broadway. Et elle a dit, bon, bah, je vais essayer, pourquoi pas. Elle est partie aux États-Unis à New York, et c'est comme ça que ça a démarré. Elle a commencé à travailler à New York, elle était toute gamine. Et quand elle est revenue en France, comme elle avait un petit peu d'argent de côté, elle a ouvert son premier cabaret. Ça s'appelait Chez les Borgia, parce qu'elle voulait pas que ça, elle voulait pas qu'on dise Lucienne Boyer, parce que ça faisait trop prétentieux. Et donc, c'est comme ça qu'elle a connu Jean Lenoir chez les Borgia. Et c'est Madame Yvonne Georges qui lui a présenté Jean Lenoir. Et Jean Lenoir, avait à l'époque, jouait, et interprétait pas mal de chansons. Il a écrit pas mal de chansons. Et un jour, elle va chercher des chansons chez Jean Lenoir. Et elle entend une petite jeune femme qui chantait, Parlez-moi d'amour avec une voix de soprane. Et alors, elle se retourne vers Jean Lenoir, lui dit, oh, mais elle est très jolie, cette chanson, et tu crois pas qu'elle serait pour moi? Et Jean lui dit, mais non, mais c'est pas du tout pour toi, cette chanson, parce que tu chantes des chansons réalistes, des chansons dramatiques. Elle n'est pas pour toi. Et Lucienne insiste, elle prend quand même le papier, le petit format, elle la fredonne au piano, et là, Jean Lenoir saute du piano, l'embrasse à tour de bras, et lui dit, mais oui, tu as raison, cette chanson est faite pour toi.
Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après vous, pour que, justement, elle connaisse le succès qu'elle a connu? Qu'est-ce qu'elle avait en plus, votre maman,
Lucienne? Qu'elle arrivait, cette chanson arrivait dans un moment où c'était le Black Button, c'était, on chantait, on dansait un peu le jazz et tout. Elle est arrivée avec une chanson qui était très, une chanson d'amour, quoi. Avec une voix très douce, une voix très belle. Elle avait une voix qu'on reconnaissait, et c'est ce qui a fait son succès.
Alors justement, Jacqueline Boyer, on va marquer une pause musicale sur Vivre FM et on va en profiter pour écouter votre maman, Parlez-moi d'amour. On le diffuse toujours sur Vivre FM. Les auditeurs sont très contents à chaque fois.
Vous avez la première version, 1929?
J'espère bien, on va voir ça.
Elle a enregistré plein de fois après.
On écoute Votre maman souvenir, Parlez-moi d'amour, interprété par Lucienne Boyer, et on se retrouve juste après avec vous, Jacqueline.
D'accord.
Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez un mot suprême, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui ne rassure pas. Et moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ce mot suprême, je vous aime.
Souvenir sur Vivre FM, Parlez-moi d'amour, interprété par Lucienne Boyer.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui avec Jacqueline Boyer qui vient nous raconter son parcours de vie, mais aussi le parcours de vie de trois personnages qui ont marqué les Français. Lucienne Boyer, sa mère, Jacques Pils, son père, et Édith Piaf, sa belle-mère. Le portrait croisé, on peut dire, hein, que vous racontez dans ce magnifique ouvrage, Histoire de trois vies extraordinaires, que l'on trouve partout, hein, sur Internet. Jacqueline,
oui, c'est publié. Sur Amazon, sans problème.
C'est publié chez Lynn X21. Un magnifique ouvrage avec de nombreuses photos et surtout de nombreux documents inédits que personne n'a vu. On vient d'écouter Parlez-moi d'amour de votre
version
originale de 1929, c'est ça?
Absolument, oui. Premier grand prix du disque de l'Académie Charles Cros.
J'imagine qu'il y a toujours une pointe d'émotion lorsque vous
écoutez cette chanson. Vous rendez compte le parcours de cette chanson, hein? Si elle n'avait pas insisté quand même, maman, parce qu'il ne voulait pas lui donner la chanson.
C'était un de ses traits de caractère, justement, d'aller jusqu'au bout
idée. Oui, absolument. Bah, c'était un lion, hein. Maman était du signe du lion, et elle allait jusqu'au bout.
Alors justement, on a retrouvé des archives de votre maman. C'était une interview de l'émission 5 colonnes à la une en 1965. Je vous propose de l'écouter, on en discute juste après.
Souvent on dit, oh, vous savez, votre fille, c'est pas sa mère. Je dis, mais si c'était sa mère, elle serait pas ma fille. Alors ma fille, oui, vous savez, votre maman, hein. Vous savez, vous êtes charmante, mais votre maman, hein, elle est pas. Si j'étais maman, je serais pas sa fille. Alors vous comprenez, c'est normal d'ailleurs. Si elle chantait comme moi, elle n'aurait pas de succès. Mais ce qu'elle fait, c'est joli. Vous ne trouvez pas? Elle est si gentille, surtout. C'est un amour d'enfant.
Vous êtes grand-mère?
Je suis grand-mère. J'en suis très fière. Elle est très jolie. Elle est mignonne comme tout. Puis elle est très intelligente. Elle parle admirablement bien. Elle ne parle pas comme un bébé. Pas du tout. Elle parle comme une grande personne. Elle est très mignonne.
Qu'est-ce que vous pensez de tous les jeunes qui vendent maintenant des milliers de disques très vite et qui gagnent beaucoup d'argent?
Bah, mon Dieu, ils ont raison. Ils en profitent. Ça n'est pas la même chose que de mon époque, mais vous savez, de toute façon, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Je suis arrivée très vite, très très vite, avec Parlez-moi d'amour notamment.
Vous avez gagné beaucoup d'argent?
Beaucoup. Oui, beaucoup. Énormément. Mais j'en ai perdu beaucoup aussi. Vous savez, on m'appelait le panier percé. Et j'ai pas changé.
Qu'est-ce que vous en faisiez, votre argent?
J'ai aidé beaucoup. J'étais un peu bonne, vous savez. Comme dirait ma fille, une bonne petite pomme, c'était mon moment. Enfin, ça fait rien. Je ne le regrette pas. Quand je peux faire du bien, je le fais.
Voilà, une interview.
Et elle en a fait beaucoup de bien.
C'est vrai?
Oui.
Bonne petite pomme, c'était aussi, ça faisait partie de sa personnalité. Elle était,
oui,
avait la main sur le cœur.
Ah oui, oui, la main sur le cœur. Et quelqu'un était dans la misère ou quelqu'un, elle donnait tout ce qu'elle avait.
Alors dans l'interview, c'est assez marrant, elle parle justement de vous, souvent les gens vous comparaient à elle ou
ah
la
oui,
comparaient
bah,
à vous.
Ah oui, bien entendu, mais évidemment, peut-être qu'à l'époque j'avais quelques intonations, ce qui était normal, mais c'était pas facile pour moi de s'appeler Boyer.
Et j'imagine,
parce
oui.
Parce qu'on me disait, on me présentait toujours, et voici la fille de, et j'en avais assez d'être la fille de. Alors, quand j'ai gagné l'Eurovision, bon, j'ai réussi, mais alors là, je me suis rendu compte que j'avais tout à faire. Parce que arriver avec un succès, maintenant, il fallait faire après monter son tour de chant. On pouvait pas faire un succès que faire une tournée, une vie avec un tour de chant qu'avec une seule chanson.
Du coup, avoir des parents célèbres qui font le même métier que vous, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça peut être handicapant dans une carrière.
C'est-à-dire que moi, au départ, c'est maman qui m'a mis sur scène pour que je chante. Mais moi, au départ, je voulais être comédienne. Mon père m'avait suggéré de prendre des cours de comédie et de préparer mon conservatoire de comédie. Moi, mon rêve, c'était de rentrer à la Comédie française. Donc, j'étais pas du tout chanteuse. J'avais une voix. Il se trouve que je chantais juste. Je chante toujours juste. Et j'avais une voix. Et comme maman, à l'époque, ouvrait un cabaret en 58... elle m'a mis dans son cabaret et c'est comme ça que ça a commencé. Mais enfin, ma première tournée avec elle, c'était en 56 où j'ai chanté 3 chansons en Hongrie dans sa tournée en tant que surprise. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, si vous voulez. Donc, je suis sur scène depuis 1956.
Alors, comment vous vous retrouvez en 1960 à représenter la France à l'Eurovision avec cette chanson qui est devenue célèbre et qui a fait le tour du monde, Tompi Libi? Racontez-nous, Jacqueline Boyer.
C'est-à-dire que à l'époque, c'était pas moi qui devais le faire, c'était Marcel Amont qui devait chanter Tompi Libi. Puis je sais pas ce qui s'est passé, il a pas pu le faire. Et comme à l'époque il y avait pas de concours pour choisir la chanson, c'était l'ORTF. Donc c'était l'ORTF qui choisissait la chanson. Et comme je venais de sortir un premier disque, mon premier disque avait été enregistré et orchestré par Franck Pourcel, qui avait été pendant de longues années le chef d'orchestre de ma mère. Donc il m'a connu vraiment en culotte courte. Et quand j'ai commencé à chanter, il a dit à maman, je vais lui faire son premier disque et je vais lui faire ses orchestrations de ses 4 premières chansons. Il se trouve que ce disque a très bien marché. Et donc, c'est venu aux oreilles des directeurs de l'ORTF et ils ont dit, puisque Jacqueline Boyer est on parle beaucoup d'elle, ça serait très bien. Elle est toute jeune, c'est une jeune chanteuse, elle a une jolie voix, ça serait très bien qu'elle représente la France. Et c'est comme ça que c'est parti.
Quel souvenir vous gardez de cette époque-là?
Je garde une. D'abord, c'était très drôle parce que, le jour où on va enregistrer, où je dois enregistrer avec Franck Pourcel, la chanson, on devait enregistrer à Paris. Il y a une grève des musiciens à Paris. On part enregistrer la chanson à Bruxelles. Très bien. Bon, parfait. On revient à Paris. Et puis, on devait prendre l'avion, grève d'avion. Nous partons en train. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Eurostar. Ça n'existait pas. On prend le train pour aller rejoindre le bateau qui faisait la traversée jusqu'à Douvres. Alors, j'arrive à la gare. Et puis, on me donne le compartiment, le wagon numéro 13, compartiment numéro 13 et place numéro 13. Dites donc. J'arrive à Londres et donc on n'était que 13 concurrents. Il n'y avait pas autant de concurrents comme maintenant.
Ce qui explique peut-être pourquoi la France a du mal aujourd'hui encore à remporter l'Eurovision.
Et donc, on fait le tirage au sort et je passe en 13e position. Et je gagne. Mais ça partait mal au début. Je ne gagnais pas. Je ne gagnais pas de points. Mais il y avait des très bonnes chansons. Il y avait quand même François de Galles qui chantait ce soir-là. Il y avait Renato Rachel. Il y avait quand même des grandes chansons.
Ah oui. Et on imagine que cette victoire a été à lancer après votre
carrière. C'est-à-dire que c'est arrivé. La chanson est arrivée très bien parce que c'est une chanson qui c'est un peu Cadet Roussel, si vous voulez. C'est une chanson qui est une chanson très 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 gaie, très très enlevée et donc ça. Avec ma voix qui était une voix de gamine de 17 ans, donc ça tombait très bien et les gens ont tout de suite flippé sur cette chanson.
Cette chanson, on va l'écouter dans un instant sur Vivre FM, ça va rappeler de nombreux souvenirs à nos auditeurs. Je voudrais revenir sur votre livre, ce livre qui est votre actualité, Histoire de 3 vies extraordinaires, où vous racontez le destin de votre maman Lucienne Boyer, de votre papa Jacques Pils et de votre belle-mère Edith Piaf, qui était la deuxième femme de votre papa.
Quelle famille
Une grande famille, effectivement. Comment Lucienne a rencontré votre papa d'ailleurs? Vous n'avez pas raconté cette histoire d'amour?
Écoutez, ça c'est tout simplement, il est venu chanter. Il est venu chanter avec Pils et Tabet, chez les Borgia, dans le cabaret de maman. Mais à ce moment-là, maman n'était pas avec lui, maman était avec Jean Delettre. Et donc, Pils et Tabet, c'était la grande époque de Pils et Tabet, Couché dans le foin, les grands succès, ça a été énorme. Les Pils et Tabet, ça a été énorme comme carrière. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais enfin, il n'était ni l'un ni l'autre amoureux, parce que je crois qu'à l'époque, Jacques était amoureux de Joséphine Baker. Donc, il n'y avait aucun atome crochu. Elle le trouvait beau garçon, et il considérait Lucienne comme sa patronne, puisqu'il passait dans son cabaret avec eux. Et puis après, ils ont eu le même agent. Le même manager, et donc ils ont commencé à faire des tournées ensemble. Et puis petit à petit, probablement, ça a dû.
Mais ça s'est pas fait tout de suite.
Ah non, ça s'est pas fait tout de suite, non, pas du tout, absolument pas.
Et Jacques Pils, il était quel genre de papa du coup ?
Oh, il avait beaucoup d'humour, c'était un homme très très beau, il avait beaucoup d'humour, il était très doux, il avait beaucoup de talent, il me faisait beaucoup rire, et puis moi il avait une voix magnifique, et puis c'était un acteur aussi, et puis c'était un écrivain aussi, il a fait beaucoup de textes, il a écrit beaucoup de chansons, avec Gilbert Bécaud, avec Loulou Gasté, c'est lui qui a écrit avec son youkou, Lily,
Donc on peut dire que vous avez été influencé par vos deux parents dans cette voie artistique quand même, vous pouviez pas faire autre chose.
C'est-à-dire que mes trois parents, je les ai vus répéter, j'ai eu la chance quand même de les voir, puis je les suis en tournée, puisque moi je suis dans les valises depuis l'âge de 18 mois, hein. Donc j'ai usé mes fonds de culotte dans tous les théâtres de New York, de Brésil, d'Europe, en suivant mes parents.
Vous dites vos trois parents, vous parlez
d'Edith. Je parle d'Edith parce que Edith, c'est ma petite mamie. Hein.
Les liens étaient très proches.
Ah oui. Même après le divorce de Jacques et de Edith, j'allais la voir tout le temps au boulevard Lannes. Elle voulait être la marraine de ma fille quand même. Ma fille est née en 62 et malheureusement, elle n'a pas pu l'être puisqu'elle est partie en 63. Mais j'allais voir Edith continuellement au boulevard Lannes.
Oh, elle était quel genre de belle-mère, Edith Piaf ?
Elle était adorable. Elle était adorable, mignonne comme tout. On riait énormément. Elle faisait beaucoup de farces. Puis j'étais avec les enfants de Marcel Cerdan. Aussi, boulevard Lannes, il y avait Marcel Junior, il y avait Popol, il y avait René. Les trois garçons étaient là, puis de temps en temps, il y avait Marinette Cerdan qui venait. Alors, c'était vraiment la roulotte hein, chez Edith. Alors, il y avait Lucienne qui venait, il y avait Marinette Cerdan, il y avait les enfants Cerdan, il y avait moi, il y avait... C'était inénarrable quand même. Hein.
On s'ennuyait jamais.
On s'ennuyait pas, non. Oh, non, non, non.
Elle avait ce côté un peu bout en train, Edith Piaf, qu'on a l'impression qu'elle avait envie toujours...
Non, non, non. Sur scène, c'était la dramatique, c'était la robe noire, mais dans la vie, elle faisait que des farces. Elle riait tout le temps... Non, 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 elle cherchait toujours à plaisanter. Mais quand elle répétait, alors là, c'était autre chose.
C'est-à-dire ?
Bon, c'est-à-dire que c'était... elle voulait absolument que les textes soient parfaits. Elle écrivait, d'ailleurs, elle a écrit beaucoup. Elle a composé aussi beaucoup. C'est quand même elle qui a écrit, avec Marguerite Monod, l'hymne à l'amour, La vie en rose. C'est elle qui l'a écrit. Elle a écrit beaucoup de chansons. Et donc, moi, j'ai vu donc travailler et Lucienne et Edith et Jacques. Et ça, c'est une école extraordinaire.
Lucienne et Edith s'entendaient bien ?
Oui, très bien. Ces deux copines s'appelaient Lulute et Didith.
C'est vrai ?
Mm-hmm.
Toutes ces anecdotes, et on les retrouve dans cet ouvrage, oui. Histoire de trois vies extraordinaires, que vous avez écrit. Vous avez mis 3 ans hein, pour sortir livre parce que vous avez mis...
Parce que je l'ai fait à la main. Je n'avais pas d'ordinateur à l'époque et j'ai écrit tout à la main.
Vous avez tout écrit à la main.
Je reprenais tout et tout. Puis il a fallu que je fasse des recherches et tout.
C'est ça, retrouver toutes
les
photos.
Et trouver des choses amusantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et que les gens ne connaissent pas. Parce qu'on a eu tellement écrit sur les trois qu'il a fallu que je recherche des choses. Il y a quand même des événements dramatiques, il y a quand même des événements drôles, enfin il y a un petit peu de tout.
Et puis des photos, il faut le dire, des documents uniques avec des photos magnifiques, ça fait un bel hommage.
En noir et blanc, puisque c'est des épaules, les photos de l'époque.
Un bel hommage et un beau cadeau. Ce livre, il s'intitule « L'histoire de trois vies extraordinaires » par Jacqueline Boyer. Vous restez avec nous, Jacqueline Boyer. On se retrouve dans un instant et on en profite pour écouter ce titre que nous aimons tous, « Tom Pilibi », chanson qui vous a permis de remporter l'Eurovision en 1960.
Pour la France.
Pour la France. À tout de suite.
Tom Pilibi a deux chats. Le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi deux grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des or et des coraux et les plus beaux joyaux. Tom Pilibi a deux secrets, moi seule je les connais. La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Tom Pilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros. Il est charmant, il a bon cœur, il est plein de vaillance. Il est charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur.
Souvenir Tom Pilibi, interprété par Jacqueline Boyer, souvenir de 1960.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM,
Jean-Baptiste Bergès.
Nous sommes toujours en compagnie de Jacqueline Boyer sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jacqueline, on parle de ce livre que vous venez nous présenter, magnifique ouvrage qui s'intitule Histoire de trois vies extraordinaires. Un ouvrage rempli de photographies et d'anecdotes où vous racontez le destin hors du commun de trois personnes qui ont marqué les Français et qui vous étiez très, très proches aussi. Hein, Lucienne Boyer, votre maman, Jacques Pils, votre papa, et Edith Piaf, votre belle-mère. On vient d'écouter cette chanson qui vous a permis après de lancer votre carrière, on peut dire ça.
Oui,
qu'est-ce qui s'est passé après l'Eurovision 1960?
Après, j'ai pas arrêté. J'ai ouvert cette chanson. Je l'ai enregistrée immédiatement en Allemagne, en allemand. Et là, j'ai ouvert un chemin très important que je continue toujours en Allemagne depuis ce moment-là. Ça m'a ouvert l'Europe, ça m'a ouvert le Canada, ça m'a ouvert plein de pays.
Avec de nombreux tubes.
Et alors, évidemment, et que je continue de chanter Tom Pilibi, bien sûr.
Bien sûr. Alors justement, j'aimerais qu'on accueille dans cette partie Benjamin Moreau, que les auditeurs de Vivre FM connaissent bien, puisque Benjamin anime tous les matins Vivre FM, c'est vous. Benjamin, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Jacqueline, ça me fait plaisir
Benjamin.
De vous rencontrer.
Benjamin, Jacqueline Boyer, je vous présente Benjamin Moreau. Benjamin Moreau, qui a une surprise pour vous et qui aime beaucoup vos chansons.
Ah oui, alors j'aime beaucoup vos chansons, effectivement. D'abord, vous avez une voix superbe. Vous disiez tout à l'heure que vous vous destiniez plutôt à la comédie, la chanson aurait perdu quelque chose, hein, parce que vous chantez avec des nuances, vous avez une voix cristalline, c'est magnifique.
Voilà les beaux compliments.
Quand on entend comme au premier jour, c'est ça, hein,
je continue de chanter.
Toujours. Continuer, vous avez raison, il faut continuer de chanter.
Alors Benjamin, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous gardez précieusement.
Je vois.
Je suis pas venu les mains vides, vous pouvez regarder Jacqueline. Alors j'ai quelques 45 tours de Jacqueline, d'ailleurs j'ai pas tout retrouvé, mais les 45 tours parce que, comme je dis souvent, j'habite chez mes disques. Ça veut dire qu'il y a tellement de disques à la maison que je ne peux pas les ranger tous par ordre alphabétique. J'ai essayé avec mes petits doigts de retrouver la pochette à laquelle je pensais parce que vous avez un autre titre, Barbara Benton. Vous avez chanté sous le nom de Barbara Benton.
Voilà.
Alors vous avez d'abord chanté en anglais, puis vous avez chanté Parlez-moi d'amour aussi sous le nom de Barbara Benton. Et ça, je sais que je laisse 45 tours, j'ai pas pu remettre la main dessus.
Ça, c'était lorsque vous avez fait carrière aux États-Unis, c'est ça, Jacqueline Boyer ?
Bah, c'est-à-dire que oui, j'avais rencontré des auteurs-compositeurs, un américain, Laurence Lassina, et un autre compositeur, Bernard Kwiatkowski. Et Bernard travaillait à ce moment-là en Allemagne et il m'a vu dans une émission de télévision, une grande émission de télévision allemande, où il y avait dans le programme Dalida, Jean-Claude Pascal, Petula Clark, enfin il y avait beaucoup de monde dans cette émission, et moi, Eddie Constantine aussi.
Donc deux gagnants de l'Eurovision, hein, Jean-Claude Pascal.
Absolument, hein, bien sûr. Et il vient me voir, il me dit, vous savez, avec la voix que vous avez, moi je voudrais bien que vous chantiez autre chose que ce qu'on vous propose. Et il m'a écrit spécialement un album anglais magnifique. Et comme en France, on m'avait dit à l'époque, quand je suis revenue en France, on m'a dit, je suis tombée sur un directeur artistique qui m'a dit, vous savez, il y a une chose avec vous, c'est que vous chantez trop juste et vous avez une pureté dans la voix et c'est plus à la mode. Ah bon ? Alors, il faudrait que vous ayez quelques défauts dans la voix et que vous chantiez pas trop juste. Ah ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, ça ne marchera pas. Je vais laisser ma place. Je fais une très belle carrière en Allemagne. Donc, je repars en Allemagne et j'ai laissé la France à cause de ça. Et donc, quand je suis revenue en France avec ce Barbara Benton, on m'a dit, oui, mais tu comprends, le producteur m'a dit, mais tu comprends, si tu sors le disque sous le nom de Jacqueline Boyer, on va t'assimiler à Tom Pilibi, l'Eurovision, c'est plus à la mode ici, c'était après bien les yéyés, tout ça, bon, bref.
C'est les années 80, Barbara Benton,
oui, oui,
hein,
bien,
moi je me
bien
souviens.
Sûr, oui, bien sûr, mais enfin, il y avait déjà, bon, alors j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, on va le faire en anglais et on va chercher un nom. Et on cherchait un nom, c'est comme ça que c'est arrivé sur Barbara Benton. Et ça faisait bébé. Et alors, l'histoire amusante, c'est que j'ai fait la promo, j'ai enregistré donc ce disque en studio. À côté, il y avait Edith Constantine qui enregistrait, il ne m'a pas reconnue. Faut dire qu'à l'époque, je m'étais transformée, j'avais coupé mes cheveux, à l'époque j'avais les cheveux bruns, je m'étais transformée en blonde, j'avais coupé les cheveux, j'avais mis des lunettes noires, j'étais en jean avec un chemisier, enfin c'est un look un peu androgyne, et pendant un an j'ai fait ma promotion en anglais, uniquement en anglais, me faisant passer pour une chanteuse américaine avec un interprète à côté de moi, et j'ai fait un gala. Un grand gala avec et c'était Yves Mourouzi qui présentait. Il m'a même pas reconnu quand il m'a présenté sur scène.
Et vous, ça vous amusait justement
de
cacher votre identité?
Ça m'amusait follement. Je faisais un personnage, je jouais la comédie. Je revenais à mes débuts de comédienne. Et donc après avoir chanté Life Is New sur scène, et il me dit en anglais, écoutez, une chanteuse américaine comme ça, on en veut tous les jours. Vous revenez quand vous voulez. Il m'a pas reconnu.
Benjamin Moreau,
c'est un joli succès, ça. C'est beau,
oui, c'est rigolo.
C'est beau parce que moi, il m'a fallu un certain temps avant que j'apprenne que, en fait, la Barbara Benton dont j'avais le disque, c'était tout simplement Jacqueline. Enfin, tout simplement, c'est même pas bien de dire ça, mais c'était Jacqueline Boyer.
Et on a dévoilé le poteau rose dans le premier Champs-Élysées en 83 chez Michel Drucker. C'est là que Michel Drucker a dit, mais vous l'entendez tout le temps sur les radios FM, elle fait toutes les discothèques et elle se nomme Barbara Benton. Qui se cache derrière Barbara Benton? Et la voici.
Et quelle a été la réaction du public, justement?
Le public a été formidable, mais les gens du métier m'en ont voulu.
Pourquoi?
Pas parce que je les avais dupés, ils n'aiment pas ça.
Alors
je suis repartie en Allemagne.
À la fois, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, si vous étiez présentée sous le nom de Jacqueline Boyer, il y avait des chances qu'ils vous fassent la gueule parce
Jacqueline Boyer.
Elle était.
Ouais, j'étais dépassée, plus à la mode.
C'est ça.
Bah oui, c'est ça. Mais tu vas très vite.
Comment prendre les gens du showbiz, hein?
Ah bah évidemment.
Quand on les dupe, ils sont pas contents.
Ah oui, Jacqueline Boyer,
l'Eurovision,
Tom Pilibi, non, c'est fini, c'est démodé, etc. Ah bon, c'est démodé, tiens. La preuve
que vous avez plus d'un tour dans votre sac. Et d'ailleurs, vous avez de nombreux projets, Jacqueline, qui vont arriver maintenant.
Oui.
Quels sont-ils?
Oui, alors le projet, c'est que ce livre, maintenant, je vais le monter sur scène. Je vais le raconter sur scène avec des projections de photos, de films Et quand je parle des chansons, je les chanterai un petit peu, un couplet, un refrain. Quand je parlerai des chansons d'Edith, des chansons de Jacques ou des chansons de Lucienne. Donc il y aura un piano sur scène et je serai derrière ma table en train de raconter cette histoire. C'est un spectacle qui va durer à peu près 90 minutes. Et je suis spécialement venue de ma région de Saint-Gaudens.
Très belle région.
Pour rencontrer une région que vous connaissez bien, je pense.
C'est ça, très belle région.
pour rencontrer ma future productrice, Janine Amadedu, et mon futur metteur en scène, Philippe Padovani, avec lequel j'ai déjà travaillé.
Ça, c'est pour quand? C'est un projet qui...
Ah, ben c'est incessamment sous peu. On a un rendez-vous cette semaine. On doit mettre à plat, sur table, comment on va faire, comment on va le monter. Et fin de l'année ou début de l'année prochaine, on va faire Histoire de trois vies.
On en reparlera. J'ai une question, justement.
Et je veux jouer sur Paris, bien entendu.
Sur Paris, évidemment. On en reparlera sur Vivre FM. Benjamin se fera un plaisir.
Oh, bah, évidemment, avec plaisir, bien sûr.
Jacqueline Boyer, vous avez évoqué Saint-Gaudens. C'est vrai que depuis quelques années, vous avez quitté Paris.
La capitale.
Pour les Pyrénées.
Je suis dans la capitale du Comminges.
Qu'est-ce que ça vous apporte, cette vie au grand air, justement?
Le grand air, justement.
Non, mais
le grand air.
C'était un besoin
Non, c'était pas un besoin. C'était à l'époque, mon compagnon, sa famille est de Saint-Gaudens. Donc, on a rejoint Saint-Gaudens comme ça. Voilà.
Et j'y suis
restée parce que c'est très agréable. La région est très belle. Il y a un microclimat, et puis bon, c'est la grande banlieue de Toulouse, hein, Saint-Gaudens. Et puis bon, il y a des avions, il y a des trains pour venir à Paris, c'est très bien.
Oui, c'est pas le bout du monde.
Vous serez pas loin de nous, vous pourrez revenir.
Oui, c'est pas le bout du monde quand même.
Alors, ça c'est une parenthèse que vous allez faire, hein, cette mise en scène de votre livre là. Mais après, justement...
Ah mais j'ai un nouveau disque qui est sorti, hein, je vous signale.
Voilà, non mais on n'est pas, vous nous dites rien.
Ah bah écoutez, on a sorti un album en anglais, en allemand et en français. Et cet album, ça s'appelle Les chansons de ma vie.
Alors, sous le nom de Jacqueline Boyer.
Ah bah évidemment, Barbara Benton, c'est fini depuis 83.
Ça y est, c'est terminé.
Ah bah depuis 83 quand même.
D'accord. Ah oui, mais je ne savais pas parce que...
Ah
bon.
si.
Avant de nous quitter, Jacqueline Boyer, je sais que vous êtes investie dans une association d'aide aux artistes qui ont eu des difficultés et des accidents. Ça, c'est un thème qui vous est cher.
Oui, je suis la vice-présidente de La Roue Tourne. Et La Roue Tourne s'occupe non pas des vieux artistes, mais des artistes qui ont eu un parcours, qui en plein milieu de leur carrière sont arrêtés soit par une maladie, un accident. Et ça a été fait, cette association a été créée par Janella Jarnac et Paul Azaïs en 1957. Et j'ai repris le flambeau depuis de nombreuses années, ayant eu moi-même un grave accident d'automobile. Et notre président d'honneur est Serge Lama.
Accident que vous avez eu en 1966.
Exact.
Est-ce que cet accident a eu un impact dans votre carrière
J'ai eu 4 ans de sans mémoire. Hein. Je suis restée, j'ai été embêtée pendant 4 ans. Je ne me souvenais plus de rien du tout. Hein. Ça m'a embêtée, oui, ça m'a embêtée. Et j'ai repris le travail, la chanson en Allemagne, parce que c'est Heinz Gietz, mon producteur à l'époque, qui a créé son label Cornet, qui a dit: Jacqueline, tu vas revenir en Allemagne et tu vas chanter, tu vas faire un album. Et revenir avec travailler sa mémoire en allemand, il faut le faire quand même.
Hein. Et c'est une belle rééducation.
Oui, c'est formidable.
Est-ce que la chanson vous a aidé justement dans cette rééducation?
Absolument, absolument. La musique, la chanson, la scène, oui, absolument. Je ne sais rien faire d'autre, hein, à part un petit peu de cuisine ou de jardinage.
C'est déjà pas mal.
Et la comédie, évidemment, bien sûr.
Jacqueline Boyer, je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle ce magnifique livre, il s'intitule « Histoire de trois vies extraordinaires » où vous racontez le parcours de votre maman Lucienne Boyer, de votre père Jacques Pils et d'Edith Piaf, votre belle-mère. Magnifique ouvrage avec des documents inédits et des photos,
plein
des anecdotes et plein d'aventures.
Voilà.
Votre dernier album aussi, Les chansons de ma vie, hein,
oui,
on peut retrouver aussi. Et puis vous reviendrez nous parler de ce spectacle que vous êtes en train
avec
de mettre en place.
Avec grand plaisir, mais très vite, bien sûr.
Chez moi ou chez Benjamin Moreau. Merci beaucoup Benjamin d'avoir participé.
Merci
à l'émission.
Merci
Benjamin.
Merci Jacqueline. Merci
à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Vivre FM podcast.